Alors le projet est un peu particulier, déjà parce qu'il n'est pas scripté et totalement improvisé. Ce que je souhaite faire, c'est une sorte de vlog, un peu comme ce qui se passe en vidéo, un vlog de lecture, mais sous la forme du podcast. Alors pourquoi je veux faire ça? Tout simplement parce que je voudrais participer au Mai avec Balzac, organisé par l'instagrammeuse Madame Irma Lee. Et pour l'instant, je n'ai pas commencé à lire Balzac, on est le 15 mai. Et tout simplement parce que auparavant j'avais commencé à lire de la fantasy pour le mois de la fantasy et en particulier le club de lecture d'Adoria qui s'appelle le club 394. Et en fait je me suis lancée dans un livre un peu trop ambitieux probablement puisqu'il s'agit d'une trilogie en version intégrale, donc il y a trois livres à lire d'un seul coup. Et en fait, c'est beaucoup trop, j'arriverai jamais à le finir pour me laisser de la place pour Balzac. Donc je pense que je vais le mettre de côté, consacrer un petit peu mon temps à Balzac ces prochaines semaines. Et s'il me reste du temps avant la fin du mois de mai, dans ce cas-là, je reprendrai mon livre de fantasy. Alors, qu'est-ce que j'ai prévu pour l'instant pour le mai avec Balzac? J'ai prévu de lire Eugénie Grandet, que je n'ai encore jamais lu. Et des nouvelles de Balzac, puisque j'ai un recueil de nouvelles que... Voilà, j'ai pioché quelques nouvelles dedans déjà, mais je ne l'ai jamais lu en entier. Et puis évidemment, comme l'objectif c'est aussi de se consacrer à Balzac, je vais voir si j'ai le temps de lire le livre de Titou Lecoq sur Balzac. Et puis évidemment, je vais aussi essayer d'écouter des émissions de radio sur Balzac ou des documentaires, etc. Et finalement, sur ce podcast, ce que j'espère, c'est vous rendre compte de ces étapes de lecture, un peu comme un journal de bord. On verra si ça rend quelque chose d'écoutable et de viable. Voilà, bah, je vous souhaite une bonne écoute.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver pour cette deuxième semaine de la Compagnie des auteurs, une nouvelle émission qui vous propose d'explorer chaque semaine donc le travail et la vie d'un grand auteur du patrimoine, et cela sur 4 jours, du lundi au jeudi. Aujourd'hui, nous entamons une série sur un ogre littéraire, Honoré de Balzac, 1799-1850.
Alors nous sommes vendredi 15 mai et avant de me relancer dans la lecture, j'aimerais faire un point un petit peu sur mes relations avec Balzac. Ce qu'il faut savoir, c'est que le premier roman de Balzac que j'ai lu, j'étais au lycée, c'était La recherche de l'absolu. Alors c'est un roman balzacien assez peu connu finalement, qui fait partie de la gamme des romans philosophiques. Je me rappelle avoir adoré ce roman, même si je pense que j'étais une des seules de la classe à avoir aimé. Par contre je m'en souviens très très peu et il faudrait que je le relise bientôt. Ensuite, le deuxième livre de Balzac que j'ai lu, c'était à la fac, j'étais obligée, enfin c'était au programme, de lire Le Lys dans la vallée. Et là, ça a été une énorme déception, je suis passée complètement à côté du roman, j'ai trouvé les personnages niais, j'ai trouvé qu'il ne se passait rien, bref, je me suis ennuyée au possible, et ça m'a dégoûtée de Balzac, si bien que je n'ai plus voulu lire de ses romans ensuite. Bien des années plus tard, il a bien fallu que je me remette un petit peu à Balzac, tout simplement parce que je suis devenue enseignante et qu'il y a des incontournables, en particulier Balzac. comme je vis en Touraine, pour moi, ça a été un des auteurs où il a été le plus facile de revenir, tout simplement parce que la Touraine, c'est la patrie de Balzac. Il est né à Tours et il venait régulièrement au château de Saché, donc un château qui appartenait à un ami de sa mère. Alors il y venait pour être tranquille, il y a écrit de nombreux romans ou des parties de romans, il y a situé le Lys dans la vallée, et s'il se rendait à Saché, c'était bon, certes pour trouver la tranquillité, mais c'était aussi surtout pour fuir ses créanciers. Pour me remettre à Balzac, j'ai commencé par visiter le musée, j'ai voulu me reconfronter à l'œuvre qui m'avait dégoûtée, donc j'ai relu le Lys dans la vallée, et cette fois-ci j'ai vraiment passé un moment extraordinaire. Et puis j'ai passé comme ça 2 étés successifs à lire les œuvres de Balzac. Alors évidemment je ne lisais pas que ça, mais mes étés étaient consacrés à Balzac. Et vous pouvez retrouver tout cela sur le blog. L'année dernière, donc nous étions en 2019, et la ville de Tours voulait célébrer l'anniversaire de Balzac. Et pour cela, elle a consacré son année à cet auteur, à travers de nombreuses manifestations. Par exemple, les musées faisaient des expositions spécifiques autour de Balzac, évidemment le château de Saché aussi, etc. Alors, je n'ai pas assisté à beaucoup de manifestations, bon, pour des raisons diverses, en particulier parce que j'habite un peu loin de Tours, mais je me suis moi-même engagée au sein de ces manifestations, puisqu'avec une collègue et des élèves, nous avons adapté un roman de Balzac. Alors, le projet était en partenariat avec le cloître de la Psalette, qui fait partie des monuments nationaux, et le théâtre de Tours, le CDNT. Et donc l'objectif, c'était de prendre le court roman Le curé de Tours, de le transformer en pièce de théâtre, et de le jouer fin mai au cloître de la Psalette. Alors pourquoi au cloître de la Psalette? Tout simplement parce que en fait l'histoire se déroule au cloître de la Psalette, qui est un cloître donc qui jouxte la cathédrale de Tours. Donc à l'aide d'un comédien professionnel, les élèves ont réussi ce tour de force. C'était pas gagné du tout, ça a été très compliqué, mais ça a permis aux élèves de découvrir Balzac, et moi, ça m'a permis de leur transmettre ce goût du patrimoine local, et puis la découverte de ce grand auteur. Alors je sais pas si ils finiront par lire du Balzac tous les jours, mais au moins je pense qu'ils se souviendront de cette œuvre-là et du travail qu'ils ont fait. Voilà, maintenant vous savez tout sur mes relations avec Balzac, vous savez que ça fait quand même 2 étés que je passe avec lui, mais néanmoins je n'ai pas lu encore beaucoup de choses de sa bibliographie, et donc je m'engage à le faire au cours de ces 15 jours. Alors, on est lundi 18 mai, et j'ai fini hier soir Eugénie Grandet, qui était le premier roman que j'avais choisi pour ce mai avec Balzac. Alors, Eugénie Grandet, c'est un roman qui est paru en 1834 et qui se trouve entre Pierrette et Ursule Mirouette dans les scènes de la vie de province. Alors j'ai déjà lu Pierrette, et c'est vrai qu'il y a pas mal de points communs entre ces deux romans, puisqu'il s'agit de jeunes filles sacrifiées, en quelque sorte, et qui n'arrivent pas à avoir une vie épanouie amoureuse, enfin oui, qui n'arrivent pas à avoir une vie amoureuse épanouie, et qui subissent un destin tragique à cause de l'argent. Alors, dans le roman Eugénie Grandet, c'est donc l'héroïne, c'est Eugénie Grandet, qui est la fille de Félix Grandet, qui est un vigneron tonnelier, qui s'est beaucoup enrichi parce qu'il est, il a du flair en affaires. Il a été maire de Saumur, donc c'est un personnage influent de cette ville. Et tout le monde sait qu'il est très riche, mais ce personnage est un avare, et donc régulièrement il dit qu'il n'a pas d'argent. Eugénie est convoitée par deux familles qui veulent la marier à leur fils pour récupérer l'argent, évidemment. Donc on a la famille Cruchot d'un côté, donc où ils sont plutôt du côté du droit, le père Cruchot est notaire, et puis il y a un abbé dans la famille, Et de l'autre côté, il y a la famille des Grassins, où là, c'est plutôt des aristocrates qui essayent de mettre la main sur l'argent des Grandet. Dans la famille Grandet, il y a aussi évidemment la mère, qui est un personnage très effacé et complètement soumise à son mari, ainsi qu'une servante qui s'appelle La Nanon, personnage qui est véritablement attachant. Elle aussi très soumise au père Grandet, tout simplement parce que il a accepté de la prendre à son service alors que tout le monde la rejetait. Alors, l'histoire commence dans cette petite vie très réglée chez les Grandet, avec l'arrivée de Charles Grandet, qui est donc le cousin d'Eugénie. Et Charles est un Parisien très mondain, c'est-à-dire qu'il vient d'une famille riche de Paris, et donc, bon, c'est un dandy. Voilà, il est très coquet, il est très efféminé, il a vécu une vie de luxe parisienne. Or, le père de Charles se suicide avant de faire faillite, et donc Charles se retrouve du jour au lendemain sans argent, et se crée entre Eugénie et Charles une sorte de relation amoureuse, en quelque sorte, puisque Eugénie tombe follement amoureuse de son cousin, et son dévouement envers son cousin fait que son cousin, lui aussi, éprouve des sentiments envers elle, et lui promet de l'épouser, mais avant ça, il doit aller faire fortune en Inde. Alors en Inde, évidemment, c'est le nouveau monde. Voilà. Et donc, Charles s'en va et laisse Eugénie comme ça. Donc toute l'histoire traite finalement du rapport entre l'amour et l'argent. Et en fait, c'est l'histoire d'Eugénie qui prend conscience de la vie, en fait, qui s'éveille à la vie grâce à l'amour et qui va être confrontée au poids et au rôle de l'argent, et en particulier de l'avarice de son père. J'ai trouvé que c'était un roman extrêmement intéressant par rapport à la place de la femme, parce que, bon, évidemment, on a dit que Balzac était l'écrivain des femmes. Alors on n'ira pas jusqu'à dire qu'il est féministe, hein, parce que au 19e siècle, être féministe c'est compliqué quand même, surtout quand on est un homme. Mais il est un des premiers auteurs à s'intéresser vraiment à la psychologie féminine. Et ici, même s'il a parfois quelques mots un peu durs pour Eugénie, parce que bon, c'est pas une jeune fille très belle, et qu'elle s'épanouit dans l'amour et dans une forme de sainteté, alors y a quand même une forte dimension religieuse dans ce texte. Il est quand même, Balzac ici, il est quand même en train de montrer à quel point la vie des femmes est soumise à celle des hommes, à leur beauté et au rôle de l'argent, que les femmes sont des objets à vendre et qu'elles ont plus ou moins d'intérêt selon le... en fait, finalement, quel est leur intérêt financier, quoi. Et j'ai trouvé que c'était très bien. Alors, c'est un des Balzac qui m'inquiétait parce que j'avais lu quelques extraits déjà et j'avais peur de m'ennuyer parce que dans les romans de la scène, enfin, des scènes de la vie de province, Balzac, ce qu'il met en avant, c'est vraiment la petitesse d'esprit de la province. C'est toujours des gens un peu médiocres qui cherche à tirer profit et des bénéfices des gens. Enfin, c'est souvent des ambiances très étriquées. Voilà. Et donc, j'avais un peu peur de ça, alors que pourtant, j'en ai lu d'autres, hein, des scènes de la vie de province que j'aime beaucoup. Par exemple, Pierrette, j'avais trouvé ça très très bien. Et finalement, ce que j'ai aimé dans Eugénie Grandet, c'est l'efficacité du roman. Alors, c'est très bizarre pour un Balzac, parce que finalement, il y a assez peu de descriptions. Je m'attendais à une grande description de départ. Elle est là, mais elle passe. J'ai pas eu de description très lente d'un objet, par exemple, qui serait représentatif, même s'il y a une description de la maison de Grandet au début, mais elle se lit très très bien. C'est un roman qui est plutôt court, il doit faire 200 pages environ. On s'ennuie pas du tout, parce qu'en fait, on espère toujours avec Eugénie. On se demande toujours ce qui va se passer. Il y a quand même quelques rebondissements, même si bon, c'est pas des intrigues, c'est pas un page turner quoi. Mais il y a quand même une forme de tension, une intrigue qui tient le coup. Et puis Balzac, comme d'habitude, il a une forme Alors, je ne sais pas si on peut dire de l'ironie, mais il y a une forme d'amertume et de piquant qui fait que quand on referme le livre, on est un peu abasourdi par la méchanceté, par les petits intérêts financiers de cette époque. Et je trouve que c'est sa grande force, c'est-à-dire que y a une dimension peut-être morale, mais elle se fait. C'est pas comme Zola où on voit ce qu'il cherche à nous démontrer. Chez Balzac, c'est différent. Il met en scène une histoire et la fin laisse le lecteur dans un état un petit peu de réflexion. Et surtout, il lui met les choses sous les yeux. Voilà, il lui dit, bah voilà, c'est comme ça, on prend un fragment de vie. Il n'est pas du tout démonstratif, et c'est ça que j'aime bien avec lui. Il reste très romanesque pour ça. Voilà, donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais enchaîner. J'ai un recueil de nouvelles de Balzac, et j'ai commencé déjà un peu à les lire, donc j'en ai lu 3. J'ai lu Adieu, j'ai lu Elle vers Hugo, et j'ai lu un épisode sous la terreur. Alors, on retrouve la plume de Balzac, hein, ça, y a pas de souci. C'est des épisodes qui sont beaucoup plus marqués par la dimension historique, en particulier Elle vers Hugo et Adieu. Il y a un lien autour de l'épopée napoléonienne. C'est des histoires très fortes, très dramatiques. Marqué par aussi une forme d'exotisme. Donc il n'y a pas vraiment de lien entre ces histoires. Donc je vais finir de les lire et ensuite je pense que je les replacerai dans l'ordre des scènes de la vie de province, de la vie philosophique, etc. pour savoir un peu à quoi correspond chaque texte. Et puis je reviendrai faire un petit point lecture plus tard. Alors, on est le mardi 26 mai. Alors oui, j'ai mis du temps pour revenir. D'ailleurs, j'ai toujours pas fini ce que j'avais commencé, c'est-à-dire que je suis en train de lire des nouvelles de Balzac qui sont rassemblées dans Nouvelles de Balzac aux éditions Garnier Flammarion. Et à l'intérieur, il y en a 16. Et il ne m'en reste plus que 2 à lire. J'espère pouvoir finir ça aujourd'hui et pouvoir enchaîner avec la biographie de Titou Lecoq. Alors, qu'est-ce que je peux dire déjà des nouvelles que j'ai lues ? Alors, sur ces 16, il y a 5 études philosophiques, 4 scènes de la vie parisienne, 4 scènes de la vie privée, 2 scènes de la vie politique et une scène de la vie militaire. Alors, il m'en reste donc 2 à lire, c'est ce que je viens de dire. Il me reste Pierre Grassou et Zed Marcas. Mais dans l'ensemble, j'ai donc bien avancé. Ce que j'ai pu remarquer déjà, c'est qu'on trouve des thèmes assez récurrents de la comédie humaine. Évidemment, on retrouve le thème des femmes. Il y a plusieurs nouvelles qui sont consacrées aux femmes. On a, par exemple, Madame Firmiani, Le Message, La Bourse, La Femme Abandonnée, La Grenardière, qui sont pour moi des nouvelles vraiment concentrées autour de la femme amoureuse, en particulier dans ses relations avec son amant. On a aussi l'exploration des liens familiaux, en particulier avec Elle vers Hugo, qui est une nouvelle vraiment très cruelle où un fils doit assassiner, enfin plutôt mettre à mort le reste de sa famille. On a aussi le réquisitionnaire, où la nouvelle met en scène une mère qui attend son fils, qui doit rentrer à la maison, mais sous une fausse identité parce qu'il est recherché. Et en fait, elle l'attend alors que son fils est mis à mort ailleurs. On a aussi, surtout, Un drame au bord de la mer, où là c'est aussi une histoire très cruelle, où un père met son fils à mort parce qu'il est en train de devenir un criminel et qu'il a volé à plusieurs reprises l'argent de sa mère, et qu'en fait il n'a absolument aucune limite, et plutôt que de voir son fils condamné un jour à être pendu sur la place publique, il préfère l'assassiner avant ça. Moi, ce que j'ai aimé dans l'ensemble de ces nouvelles, c'est la diversité qu'on peut voir. En fait, la plupart du temps, quand on parle de la comédie humaine, on a tendance à l'imaginer sur le Paris du 19e siècle. On a une vision assez réduite de l'œuvre, puisque la plupart du temps, on pense au triptyque Le Père Goriot, Illusion perdue et Splendeur et misère des courtisanes. Et là, avec ces nouvelles, on voit que, en fait, il y en a beaucoup plus que ça. Déjà, la période temporelle est beaucoup plus vaste, puisque ici, on a deux nouvelles qui se situent pendant la période de la Révolution française. Donc, on a un épisode sous la Terreur et puis le réquisitionnaire. On a aussi une grande diversité géographique, puisque El Verdugo, ça se passe en Espagne. Alors, évidemment, c'est une Espagne romancée, c'est pas du tout une Espagne réaliste. On a Facino Cane qui évoque Venise, un petit peu. Alors là, moi, cette histoire m'a vraiment fait penser à du Alexandre Dumas. On a Une passion dans le désert, qui se passe, comme son nom l'indique, dans le désert. D'ailleurs, ça, c'est une histoire très étrange, d'une sorte d'histoire d'amour entre un homme et une panthère ou un animal de ce genre. Alors, c'est de façon très allusive, hein, mais voilà, il a une histoire d'amour avec cette bête. Or, évidemment, on peut lire l'histoire sans s'en apercevoir, mais les notes sont là pour bien nous prévenir. Donc, autre dépaysement, évidemment, on voit la mer dans Un drame au bord de la mer, ce qui est assez rare, il me semble, chez Balzac. Après, je dis peut-être des âneries, mais voilà. On a L'Auberge rouge qui se passe en Allemagne. L'Auberge rouge, super nouvelle, qui ressemble à une nouvelle policière au début et tourne totalement sur une réflexion philosophique autour de l'innocence après. Ça, c'est vraiment génial. Et si, on a aussi beaucoup de thématiques autour des apparences et des illusions, en particulier sur Madame Firmiani et La Bourse, qui sont deux nouvelles qui essaye d'expliquer qu'il faut dépasser les apparences parisiennes. La Bourse, donc, c'est un jeune homme qui tombe amoureux de la fille de sa voisine, en fait. L'histoire fait... Alors, elles sont très pauvres, enfin, elles sont pauvres, et il a l'impression qu'en fait, ces deux femmes volent ou racolent, ou bref, qu'elles ont des mœurs étranges, alors qu'en fait, pas du tout. Et pareil pour Madame Firmiani. Ça, c'est un morceau vraiment très intéressant. Il ouvre la nouvelle en essayant de faire le portrait de Madame Firmiani à travers le regard de tous les types de Parisiens qu'on peut croiser, pour montrer qu'en fait, une personne ne peut jamais être saisie à partir de son apparence extérieure et que seuls vraiment les intimes peuvent connaître une personne. Ça, c'était vraiment génial comme texte. Et puis pour moi, le plus beau de tous les textes, c'est La Grenardière. Alors j'ai une affection particulière pour ce texte, parce qu'il se passe en Touraine, et il se passe dans un lieu de la Touraine que je connais assez bien. Et on a une description de la vue sur la Loire, des jardins, qui sont splendides. C'est une nouvelle extrêmement poétique, et qui parle de l'amour et de la place de la femme dans l'amour. Ce que j'ai aussi remarqué dans beaucoup de ces nouvelles, c'est qu'elles ont un lien, en fait, qu'elles se raccrochent, et c'est là où on voit comment Balzac a créé la comédie humaine. Elles se rattachent plus ou moins explicitement au Père Goriot. Alors, on ne comprend pas toujours, il y a des notes qui nous préviennent que ici tel personnage renvoie en fait à tel personnage dans la comédie humaine, dans le Père Goriot, ou bien dans Illusion perdue, etc. Et c'est assez intéressant de voir qu'en fait, dans les notes, on nous indique que le personnage avait un autre nom au début, et comment Balzac a créé son réseau autour des personnages. Voilà. Donc, pour l'instant, c'est ça que je peux vous dire sur ces nouvelles. Ma préférée, donc, celle que je porte dans mon cœur, c'est La Grenardière, mais j'ai vraiment adoré Madame Firmiani, et j'ai trouvé que certaines étaient vraiment d'une grande violence, donc avec Un drame au bord de la mer, El Verdugo, qui pour moi sont vraiment en miroir. Adieu aussi, qui est une nouvelle vraiment très étrange et très violente sur le traumatisme de la guerre. Bref, je vous recommande de lire ces nouvelles parce qu'en fait, on connaît assez mal Balzac nouvelliste, mais je le trouve très fort parce que il arrive toujours à faire... Alors, soit il y a des nouvelles à chute, comme El Verdugo, qui est une sorte de nouvelle à chute. On a aussi des récits enchâssés. Il est extrêmement... Alors, on dit toujours, oui, Balzac, c'est les descriptions à n'en plus finir, etc. Et en fait, avec ces nouvelles, on s'aperçoit que c'est pas du tout le cas, qu'il est capable d'aller à l'essentiel, de brosser des scènes extrêmement délicates et de réussir à retracer des histoires entières en quelques pages, comme dans La femme abandonnée, que j'ai beaucoup aimé aussi, tout simplement parce que alors là, pour le coup, elle se rattache au père Goriot de façon très très visible. Donc voilà, donc je vous conseille de lire les nouvelles de Balzac si vous débutez Balzac, en fait, parce que c'est beaucoup plus accessible et c'est assez sympa de rentrer dans des histoires de ce genre. Bonjour, nous sommes le dimanche 31 mai et c'est le dernier jour du challenge hashtag mai avec Balzac organisé par Madame Irmali sur Instagram. Donc c'est pour moi le temps de faire le bilan. Qu'est-ce que j'ai lu depuis ma dernière prise de parole? J'ai lu les deux dernières nouvelles de mon recueil. Donc il s'agissait de Pierre Grassou et de Zed Marcas. Deux portraits d'hommes très intéressants. Pierre Grassou, c'est le portrait d'un médiocre en art. Et on peut se dire que c'est l'opposé de Balzac, puisque c'est quelqu'un qui n'a aucun génie et qui pourtant réussit dans la vie. Contrairement à Balzac, et ce point on va y revenir sur le livre suivant que j'ai lu. Et ensuite Zed Marcas, c'est exactement la même chose, sauf que c'est un génie qui échoue. Et donc là, Zed Marcas serait plutôt un portrait qui rappelle la situation de Balzac. Zed Marcas est un homme politique brillant qui est exploité en permanence parce qu'il ne vient pas d'un bon milieu, il n'a pas assez d'argent pour être élu, et donc il est continuellement exploité par des gens médiocres et rejeté quand on n'a plus besoin de lui. Alors ça, c'était mes deux dernières nouvelles. Et ensuite, j'ai fini avec la biographie qui s'appelle « Honoré et moi » de Titiou Lecoq. Alors Titiou Lecoq, c'est une féministe, une romancière, essayiste, et donc elle a écrit ce livre. Alors elle explique au début que en fait elle a fait une sorte de petite dépression après la publication de son dernier livre et qu'elle ne sait pas trop quoi faire. Et pour ça, elle va se tourner vers Balzac, Balzac qu'elle aime et qu'elle redécouvre au détour d'une visite du musée Balzac à Paris. Et elle est fascinée par cet homme qu'on présente comme un génie, comme un monstre de la littérature, alors qu'en fait, sa vie a été la loose totale, la loose permanente. Il a été ruiné très tôt et il a enchaîné les catastrophes financières. Malgré la grandeur de son œuvre, en fait, ça lui a vraiment jamais vraiment satisfait. Ce qu'il voulait, c'était être riche, c'était... vivre dans le luxe et surtout être reconnu pour son talent, pour son génie, mais dans tous les domaines. Et en fait, c'était le poissard de service. Ce livre est extrêmement intéressant, tout simplement parce que il est drôle, il est écrit avec un langage très moderne, très familier, mais surtout on voit toute l'affection de l'autrice pour l'auteur. Il y a pas mal de réflexions sur la société de l'époque. Alors évidemment, elle a dû énormément travailler, elle cite beaucoup. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi des passages où elle analyse l'œuvre en rapport avec la vie de l'auteur. Donc ça, c'était assez intéressant. Ça ne se présente pas comme un ouvrage universitaire, il n'y a pas de notes de bas de page, il y a beaucoup de citations, mais on n'a pas toujours les références. Donc ça ne se présente pas du tout comme un ouvrage de référence. Pour moi, c'est plus un ouvrage de vulgarisation et un ouvrage d'une autrice qui écrit sur un auteur qu'elle trouve intéressant parce qu'il est accessible, parce qu'il a un parcours de vie intéressant, et aussi probablement parce qu'il aborde des thématiques qui l'intéressent. Alors au début, j'ai dit qu'elle était féministe, alors sans dire, et on en a déjà parlé, que Balzac était féministe, il a quand même un regard assez moderne sur les femmes. D'ailleurs, il y a de très très beaux passages à l'intérieur de ce livre sur la place des femmes et sur son rapport avec les femmes. Elle n'est pas du tout complaisante avec lui, puisque à plusieurs moments, elle se moque de lui ou elle démonte un petit peu son argumentaire, en particulier dans ses relations avec sa mère. On a souvent dit que sa mère était un monstre d'égoïsme, qu'elle ne l'avait jamais aimé, etc. Et là, Titiou Lecoq montre bien que ce n'est pas exact et que c'est une reconstruction du passé par Balzac. Et moi, ce que j'ai aimé, c'est que finalement, on voit que Balzac était un homme qui, alors même que politiquement, il était plutôt conservateur, dans sa vie de tous les jours, c'était un être très libre qui refusait les contraintes du réel, en particulier liées à l'argent, et qui ne voulait se mettre aucune limite, aucune contrainte. Et surtout, c'était un homme qui ne comprenait pas pourquoi il n'avait pas le droit à la même chose que les autres auteurs, en particulier les autres qui avaient du talent. On peut penser à Hugo, par exemple. Et donc, c'est un homme qui est encore très actuel, finalement, parce que cette jalousie ou cette incompréhension du réel liée à l'argent, elle est encore très prégnante dans nos sociétés. Effectivement, aujourd'hui, on pense que Balzac se serait surendetté avec des crédits chez Cofidis. Hein. Et c'est assez intéressant de voir qu'en fait, cet auteur que l'on juge auteur de classique, plutôt ennuyeux, etc., en fait, est extrêmement moderne. Voilà, donc c'est sur ce livre que s'achève mon challenge « Mais avec Balzac ». Ça m'a fait du bien de retrouver Balzac, que je lis une fois par an depuis 3 ans maintenant. Ça n'empêche que cet été, je pense que je relirai des Balzac. En fait, la biographie là, de Titiou Lecoq m'a donné vraiment envie de lire Le Cousin Ponce et La Cousine Bête, ainsi que Le Médecin de Campagne. Alors, je crois que je les ai dans ma pile à lire. Alors, j'ai Le Cousin Ponce, j'ai Un Médecin de Campagne. Je voudrais lire Splendeur et Misère des Courtisanes aussi. Voilà, donc un excellent challenge. Je remercie encore Madame Irmali d'avoir lancé ça. Ça m'a permis un peu de vider ma palle. Je remercie aussi Mademoiselle Maëve, qui est une blogueuse tourangelle littéraire, qui m'a offert la biographie d'Honoré de Balzac, donc qui s'appelle Honoré et moi, parce qu'elle sait que j'aime Balzac, et quand elle a vu ce livre, elle a pensé à moi. Voilà, donc je la remercie pour ce bon moment de lecture. C'était génial. Je vous recommande tous les livres que j'ai lus, à peu près. Pas de déception. J'espère que ce format vous aura intéressé, vous aura plu. C'est très improvisé, pas du tout scripté, donc il y a beaucoup de « e », beaucoup de maladresses d'expression probablement. Le podcast risque d'être un peu long, c'est normal puisque je parle de 3 lectures et que je fais le point sur ma relation avec Balzac. J'espère néanmoins que tout cela sera intéressant. Si le format vous a plu ou si l'expérience vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et je vous dis à bientôt. Oh, 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 oh.